Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de Monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, heureux de te revoir.
Moi aussi, je suis content d'être là.
Voilà, et bonjour à tout le monde pour ce lundi de reprise qui s'annonce fort en social media.
Exactement, quoi de neuf dans ta besace, mon ami, ce matin?
Eh ben, je me demande si un jour tu diras autre chose que besace, mais...
J'aime bien.
Ok, ça marche.
N'hésitez pas à proposer, hein, à superlatif sur les réseaux sociaux. Quoi de neuf dans ta petite sacoche?
Eh ben, alors, dans ma petite sacoche, je vais te parler de WhatsApp ce matin. En avril, WhatsApp annonçait le lancement d'une fonctionnalité autour de la gestion de communauté. Quelques mois d'attente et le déploiement monde est officiel. Aujourd'hui, sur WhatsApp, tu peux créer des tonnes de groupes avec tes amis, tes clients, ta famille, tes collègues. Bien souvent, il y en a beaucoup trop même parfois. Cette nouvelle fonction, donc communauté, vient mettre de l'ordre là-dedans en nous proposant de rassembler des groupes en communauté. C'est un chapitrage qui va se faire là. Dans la communauté famille, par exemple, je peux rassembler tous les groupes de mes deux familles, déjà, de l'anniversaire de papy, du cadeau de naissance du petit cousin, et rattaché à une marque, hein, ça nous intéresse aussi. On pourra utiliser communauté, par exemple, pour travailler en mode projet, gérer un groupe de clients testeurs, une conversation avec des ambassadeurs de marque, les échanges logistiques autour d'un salon. Bref, ça va mettre du clair là-dedans. La fonctionnalité, elle sert pas que de rangement, elle simplifie donc le classement, ça oui, mais elle permet aussi de recevoir des messages destinés à l'ensemble de la communauté. Donc toi, en tant que gestionnaire de plusieurs communautés, tu peux balancer un message transverse. Tu peux aussi continuer à discuter dans plusieurs petits groupes, bien évidemment, et tu peux facilement passer d'un groupe à l'autre. Donc c'est, on va dire, une organisation hiérarchique, une hiérarchie qui permet d'envoyer des messages à tout le monde. On pourra avoir jusqu'à 50 groupes dans une communauté pour un maximum de 5000 membres.
Donc ça veut dire que tu vas pouvoir faire une communauté famille et mettre ton groupe avec tata, ton groupe avec les frangins,
exactement,
ton groupe avec...
avec papy, mamie.
Voilà, tes 50 groupes différents qui ont tous des noms. Anniversaire, maman, 50 ans, alors qu'on en a 65 maintenant.
Comme ça, ce dossier-là, tu l'ouvres jamais, tu vois.
Voilà, et tu envoies à tout le monde le message, comme ça, t'es sûr.
Ouais, c'est ça. Et ça arrive potentiellement plusieurs fois, d'ailleurs, mais puisque plusieurs groupes, la même personne. Donc concrètement, dans WhatsApp, tu vas sur nouvelle discussion et nouvelle communauté. Et ça te permet d'organiser tout ça.
Ok, voilà. Intéressant. Ramener à une marque, je trouve que c'est pas mal.
Je m'y penche de plus en plus pour des marques. J'ai 2-3 idées là, donc je pense que ça peut être intéressant pour des groupes de testeurs ou clients.
Avec un bug toujours pour une marque, c'est qu'il te faut un numéro de portable associé, un numéro de mobile.
Oui.
Voilà, ça c'est quand même le bémol.
Au final, tout comme un compte Instagram pour le sécuriser. Donc,
oui, mais c'est que là, il est affichable et lisible, on peut t'appeler en fait.
Ouais. C'est vrai.
Voilà, c'est un petit bémol.
C'est vrai.
Voilà. Donc ça peut pas être le portable du patron. Quoi.
D'ailleurs, au passage, Aurélien s'est fait envoyer des messages par une personne comme ça sur la publication d'un compte de marque, parce que à une époque, il avait rattaché son compte WhatsApp et voilà, sur une publication, il y avait la possibilité de lui écrire en direct.
Ah, d'accord. Et c'est
petite anecdote
sur
Facebook.
Petite news de mon côté avec Instagram. Instagram qui a décidé de modifier sa version desktop. Alors c'est une micro news, mais je trouvais intéressant quand même d'en parler ce matin. Je sais pas si toi tu es utilisateur de cette version desktop.
Oui, souvent pour aller chercher des exemples et tout, et pour faire des prêts et puis pour regarder d'un autre œil.
Ouais, je suis d'accord. Bah moi aussi, plus ça va, plus je passe de temps en fait étrangement sur cette version desktop. Alors sans doute avec un autre moment de consommation qui est plutôt au bureau en mode très statique. Voilà, je regarde et là je prends plus de temps aussi pour regarder le contenu. Eh bien, Instagram a modifié son interface pour votre version ordinateur fixe, version desktop. Cette nouvelle interface, elle intègre désormais une barre latérale sur le côté gauche de votre écran.
Okay.
Ça ressemble beaucoup à la version desktop de Twitter ou la version desktop de TikTok. C'est-à-dire, j'ai mon contenu dans une grande colonne centrale.
Mais oui, je l'ai vu.
Et puis, j'ai une barre à gauche avec mon menu. Et dans cette barre de menu, on retrouve les liens vers le menu de recherche, les MP, les notifications, la création de posts, etc. Parce que rappelons que la version desktop d'Instagram, elle n'est pas si anecdotique que ça, si je peux me permettre, elle offre la possibilité de publier des photos, des vidéos depuis son ordinateur, ce qui peut s'avérer quand même assez cool, d'accéder aussi à ses messages privés ou de visionner des vidéos en direct. Et dans ce cadre-là, je trouve par exemple que c'est un mode de consommation plutôt intéressant parce que t'as, ton image est plus grande et t'as plus d'espace, plus de qualité, on va dire, pour la regarder. Certains comptes ont aussi la possibilité de diffuser en direct, hein, on en avait déjà parlé, via la version desktop en utilisant une application tierce. On pense notamment à Streamlabs ou à quoi, OBS,
ouais.
Qui se plug sur ton compte Instagram et qui te permettent depuis ta version desktop de streamer un vrai stream en multicaméra, etc. Alors nous, on n'y a malheureusement toujours pas accès, hein, dame, si tu nous écoutes, parce qu'on aurait grand plaisir à diffuser ce qu'on diffuse sur Twitch, sur Instagram le matin, ce qui du coup est possible.
C'est clair.
Une de mes fonctions préférées quand même de cette version desktop, ça reste la page enregistrement. Je trouve que enregistrement, c'est une fonction qui est complètement sous-cotée sur Instagram et qui pourtant s'avère très précieuse. Quand tu es sur mobile et que tu trouves un contenu intéressant, tu peux cliquer sur les trois petits points en haut à droite, l'enregistrer dans une collection. Sauf que quand tu es sur mobile, c'est un peu fastidieux de parcourir cette collection, c'est pas très intéressant.
Ouais, je suis d'accord.
Là où sur desktop, ça s'avère vraiment très très cool parce que tu te retrouves avec quelque chose qui ressemble un peu à une sorte de Pinterest avec tes différentes collections, t'es rangé en dossiers et tu vas pouvoir comme ça retrouver des éléments que tu avais enregistrés au cours de tes pèlerinations sur Instagram. Je trouve ça très intéressant à noter, hein, puisque Instagram fait des améliorations sur sa version desktop, la question lui a été reposée d'une version iPad, hein, parce qu'il n'y a pas de version iPad d'Instagram, et Adam Mosseri a répondu très clairement là-dessus, ce n'est pas d'actualité.
Ok, en même temps, la version iPad, souvent, c'est juste du responsive design de la version desktop ou mobile, donc autant avoir une bonne version desktop. Je l'utilise pas mal, ça fait, moi, je l'ai eu la semaine dernière, ce bandeau latéral. Ouais. Et t'as raison, pour les collections que je viens de regarder, c'est quand même beaucoup plus facile à naviguer.
Ah, mais carrément. Et carrément. Puis je trouve que
là, organiser aussi.
Organiser, tu vois vraiment ce qui se passe, tu vois vraiment ce que t'as sauvegardé, c'est plutôt intéressant.
Et magnifique. Moi, je vais te parler de Facebook qui lance officiellement son mode professionnel pour les créateurs. On avait vu poindre chez Facebook ce nouveau mode d'utilisation avec l'annonce notamment cet été de différents outils de création à destination des créateurs de contenu. Là, c'est officiel, à l'instar d'Instagram, Facebook lance un mode professionnel pour les créateurs. Un modèle à peu près identique, hein, le mode pro te donne accès à plus de statistiques et des nouvelles fonctionnalités, notamment de monétisation. Et un mélange entre le pro et le perso. Pour la monétisation, vous aviez fait un épisode là-dessus, je reparcours rapidement, mais une monétisation étendue des Reels avec un programme qui te permettra de les valoriser et de les financer.
On est d'accord, on est dans Facebook là.
On est dans Facebook. Okay. Et ça marchera donc entre Facebook et Instagram, ça s'appelle Reels Play Bonus. L'accès aux étoiles Facebook pour plus de créateurs. Alors ce truc là, c'est comme les sombres roses sur TikTok. Quand t'aimes bien un créateur, tu lui balances une rose et lui gagne 1 centime, 2 centimes. Donc là, ça s'appelle des étoiles. Donc ça marchera sur Facebook et sur Instagram, sur tes Reels, sur les vidéos à la demande et sur tes lives. Donc la possibilité de te rémunérer. Et des abonnements interopérables entre Instagram, Meta, enfin tous les groupes de Meta, toutes les applications du groupe Meta. Et ce qui permettra aux créateurs de recevoir des fonds autant d'Instagram que de Facebook, que de WhatsApp et regrouper tout ça au même endroit. Ça, c'est pour la partie monétisation. Et il y en a encore. Et puis, sur le pro et le perso, la promesse là, c'est au-delà de ces possibilités de l'utilisateur lambda, c'est de pouvoir développer une audience à côté. Donc, c'est un peu bizarre. Hein. Alors, en regardant, je me suis dit, OK, d'accord, je comprends. Tout en restant en contact avec tes amis et ta famille. Donc, concrètement, tu as accès aux fonctionnalités classiques, mais en plus de ça, l'algorithme va davantage recommander tes publications, ton profil, avec plus de notifications à destination de personnes qui ne te connaisseraient pas encore, d'invitations à t'abonner, à s'abonner à ton profil, à tes amis. Donc, voilà, une meilleure exposition.
Profil, c'est un profil perso, admettons que tu sois créateur de contenu, voilà. Tu as ton profil perso sur Facebook, tu peux le transformer en contenu en profil
professionnel et il sera davantage suggéré là où ils sont plutôt cachés les profils perso habituellement. Donc voilà, de la monétisation et un profil pro perso.
Ok, bon à tester, hein, à tester. Voilà. Facebook n'a pas dit son dernier mot.
Il duplique ce qui marchait sur Instagram.
Pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas. Puisque tu parles de monétisation, eh bien je vais vous parler de monétisation sur Instagram. Instagram qui va bientôt proposer de minter du NFT.
Voilà. Okay.
Vous pensiez peut-être, chers amis, ne plus jamais entendre parler des NFT, que tout ça était mort, que la vague était passée, eh bien, pas de bol. Ils arrivent en force sur Instagram. Il y a quelques semaines en arrière, hein, Adam Mosseri avait annoncé la possibilité, souvenons-nous-en, de publier des NFT dont on est propriétaire directement au cœur de la plateforme Instagram. Les posts NFT prenaient une forme un peu différente, avec un petit effet de halo dessus. Et puis surtout, un accès à toutes les informations blockchain liées à ce NFT, c'est-à-dire tout l'historique de propriété de ce NFT au cœur de ta grille Insta. En bref, une fonctionnalité dont peu de gens en ont quelque chose à foutre, hein, soyons honnêtes. Eh bien, la semaine dernière, Meta a annoncé vouloir aller plus loin en faisant le lien entre Instagram et les NFT, puisque la plateforme a annoncé développer des outils pour que les créateurs de contenu puissent créer leurs propres NFT et les vendre sur et en dehors d'Instagram. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est qu'on va pouvoir, un créateur de contenu va pouvoir décider de créer directement au cœur d'Instagram, de la version mobile, une série de NFT, un ou plusieurs NFT, et de les commercialiser. Et ça, c'est quand même...
Donc, c'est une plateforme e-commerce de NFT, quoi, comme les nombreuses qu'on a été voir, galeries NFT.
Exactement. Alors, admettons, par exemple, un créateur de contenu comme Pablo Rocha, qui, on le sait, a le goût de l'exceptionnel, hein, pourrait très bien décider de transformer un de ses contenus en NFT, de dire, bah, il en existe 5 NFT de cette vidéo de pigeon qui mange je sais pas quoi dans la rue, eh bien il va pouvoir, depuis l'application Instagram, décider de transformer son contenu en NFT et de les commercialiser au cœur de la plateforme. Cette annonce, elle s'intègre au milieu du programme plus vaste dont tu viens de parler, du groupe Meta, pour développer des moyens de rémunération à l'attention des créateurs de contenu. Et on voit que là, il pourrait peut-être y avoir une opportunité, hein, pour les créateurs de contenu. Qu'est-ce qu'on y apprend d'autre ? On y apprend dans ce communiqué, hein, je vous mets le lien en note de cet épisode si vous voulez creuser, on apprend donc que Meta s'associe à une blockchain qui s'appelle Polygon, qui est une blockchain assez connue, qui va proposer au cœur d'Instagram, eh bien, des outils permettant de transformer un contenu en NFT. Ça, c'est quand même assez novateur.
C'est un cryptage, en fait, monétaire de ton contenu.
Exactement. Et à ce titre, eh bien, du coup, le réseau social entre en concurrence directe avec, comme tu l'as dit, les galeries de NFT, les fameux OpenSea, hein, par exemple, qui est leader aujourd'hui sur ce marché-là, avec sans doute un mode de production de NFT encore plus simplifié qu'OpenSea. Peut-être que le groupe Meta touche quelque chose du doigt à cet endroit.
Ben, moi, tu me parles de NFT, alors j'ai vu passer la news et je me dis, ah tiens, ça existe encore ce truc. C'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler, bon, on verra si ça fonctionne, hein. c'est une bonne idée. Puisque tu me parlais de course à pied, Thibaut, je vais faire une très belle transition avec Snapchat et Strava. Hein. Snapchat qui va toujours plus loin dans le partenariat et la création de fonctionnalités, cette fois-ci donc avec Strava. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une application qui enregistre tes performances sportives, multisports, et te permet aussi de les partager avec tes abonnés. On s'abonne à un profil. Cette nouvelle intégration de Snapchat, hein, permet aux utilisateurs de fournir des mises à jour interactives et visuelles de leur activité Strava. Un moyen plutôt ludique de faire plus de sport et d'étendre la pratique. Le filtre Strava, hein, c'est un filtre qui vient s'ajouter sur ton appareil photo Snapchat, sur ta prise d'image, te permet plusieurs options de superposition d'informations, plusieurs calques, plusieurs filtres dans le filtre. La durée de, j'ai mis durée de vie, durée de la séance, classique, hein, si tu cours une heure, courbe de dénivelé du parcours, temps moyen, vitesse, rythme cardiaque, toutes les petites informations que tu peux avoir soit sur ta montre connectée, soit sur ton téléphone. Un très bon moyen de satisfaire son ego sportif, d'aller mettre tout ça en image, tu peux rajouter du GIF, etc. Souvent une belle image de fond, de l'objectif final de ta course à pied ou de ton vélo. La fonctionnalité, elle est très habile, hein, parce que moi, perso, je vois très souvent mes amis partager leurs séances Strava ou même sur d'autres applis. Ouais, trop beau, grosse séance aujourd'hui. Là, Snapchat un peu innove avec ce partenariat qui permet directement d'aller intégrer ça. C'est super intéressant.
Ça fait penser aussi à ce que faisait Nike Plus à un moment donné. Tu sais, avec cette application qu'on avait beaucoup vu à l'époque, ces photos de run où tu prenais une photo de ton run et puis tu avais des informations liées.
Tu pouvais les partager. Et donc tout ça est très joli. Hein. Et tout ça n'est pas anodin. Et Snapchat, c'est toujours pareil. Je trouve qu'ils sont toujours dans les bons coups pour initier des partenariats, des très bonnes idées qui sont ensuite volées par les autres. C'est pas pas anodin. Strava, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs. Et cette nouvelle intégration va fournir une nouvelle visibilité à Snapchat avec un objectif de fond d'augmenter son attrait pour des publics plus âgés. Donc là, on a une bonne base de 25-45 sur Strava qui vont potentiellement voir davantage Snapchat, découvrir le petit logo, partager sur Snapchat, etc.
Mais c'est très intéressant ce que fait Snapchat comme ça en s'ouvrant aux API d'autres fonctions. On imagine ramener ça sur Instagram ou même sur un TikTok, le carton immédiat que ça pourrait avoir. Snapchat, toujours une petite longueur d'avance là-dessus.
Ils ont les bonnes idées, je trouve, Snapchat.
Allez, on va parler de Twitter. Ça faisait quelques jours maintenant qu'on n'avait pas parlé de Twitter. Bon, c'est la folie, on va la
ça
faire
ça s'appelle encore Twitter ?
On va la faire courte. Voilà, si vous êtes vous-même sur Twitter, eh bien votre fil Twitter ne ressemble plus qu'à Elon Musk. En gros, il n'y a plus que du contenu qui parle de l'affaire Twitter. C'est assez faramineux. Et moi, j'aimerais me concentrer sur un point en particulier dans cette affaire Twitter, cette saga interminable dont on parle ici au micro du Super Daily depuis bientôt 6 mois. Je suis tombé sur un article du site Bot Sentinel. Bot Sentinel, c'est un truc qui... c'est un collecteur de data, on va dire. Et ils ont noté qu'il y avait 877 000 comptes qui avaient été désactivés depuis entre le 27 octobre et le 1er novembre, c'est-à-dire le moment clé où Elon Musk a repris officiellement l'entreprise.
La nuit d'Halloween.
877 000 comptes et 497 000 autres qui ont été suspendus, ce qui fait quand même un gros ménage au milieu de la base d'utilisateurs de Twitter. Alors, c'est important, on pourrait se dire, c'est signe de la fin des temps pour Twitter. Pas vraiment quand même, rappelons les chiffres. Twitter, c'est à peu près 275 millions d'utilisateurs. J'ai envie de dire que 275.
Oui, c'est maigre par rapport aux autres plateformes.
275. Donc, et au milieu, du coup, ces départs, c'est un peu, ils sont pas si alarmants que ça. Ça représente moins d'1% de la plateforme. C'est 0,5%. C'est pas si ouf que ça. Ce qui est davantage alarmant pour Elon Musk et sa bande, c'est le départ des annonceurs. Et ça devient un peu flippant pour Elon. Il l'avait peut-être pas vu comme ça, le truc. Une perte importante d'annonceurs est vraisemblablement à prévoir dans les semaines qui viennent, notamment en raison de cette première perte d'utilisation. Et puis aussi de la personnalité extrêmement clivante d'Elon Musk. Il y a déjà un certain nombre d'annonceurs qui se sont barrés, des annonceurs de premier plan. Je cite quelques-uns, General Mills, General Motors, Volkswagen, Pfizer. Ils sont déjà tous partis, avec leurs sous, ils sont allés mettre leurs sous ailleurs. Et pourquoi ? Parce que Twitter est devenu un espace trop risqué. C'est plus un espace de safe brands, à se demander si ça l'a été un jour, mais alors là, plus du tout depuis l'arrivée d'Elon Musk. Et Elon Musk, il s'est exprimé ce week-end sur ce sujet, et selon lui, tout ça c'est une cabale, évidemment. Tout ça c'est la faute aux activistes. Les activistes qui font pression sur les marques et qui sont en train de lui manger le sucre sur le dos. Mais il semblerait qu'il n'ait pas tout à fait tort pour une fois, Elon Musk, puisque des organisations telles que la Ligue Anti-Diffamation, la Free Press, la GLAAD, qui sont autant d'organisations qui traitent du sujet des droits de l'homme et de la liberté d'expression, ont intensifié récemment leur campagne de pression auprès des grands annonceurs pour leur demander de se retirer de Twitter. Les groupes qui ont quitté la plateforme jusqu'à présent, ils ont tous souligné qu'effectivement, les licenciements massifs qui ont eu lieu vendredi dernier du personnel de Twitter ont été un facteur clé dans leur prise de décision.
Oui.
Et ils évoquent notamment la crainte que les coupes de Musk ne rendent la politique d'intégrité de Twitter affaiblie, et notamment aujourd'hui en pleine élection américaine. Ils sont tous un peu flippés de se retrouver au milieu d'un scandale.
En gros, chez Twitter, ça pue de un peu tous les côtés et ils préfèrent ne pas se mêler à tout
les
ça.
Les rats quittent le navire.
Et on en parlait avec Adjane mercredi, un des autres facteurs aussi, c'est que Elon Musk a annoncé que à l'avenir, il aimerait que le chiffre d'affaires de Twitter soit basé à 50% sur les abonnements payants. Après, il a dit, rassurez-vous les annonceurs, vous continuerez à bosser. Mais en gros, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de place pour les annonceurs. Donc le risque, c'est que les annonces soient sélectionnées, que des personnes soient moins mises en avant.
Plus cher.
Donc ça fait un ensemble de choses qui puent globalement pour un annonceur.
On n'y voit pas très clair. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va pas en parler tout de suite de Twitter. On va se prendre un petit peu de temps pour digérer cette affaire Twitter et puis on fera un point d'ici quelques semaines.
Au passage, Jack Dorsey a annoncé la création d'un autre réseau un peu similaire à Twitter hier. Alors j'en ai pas parlé, mais j'ai vu passer ça. Donc voilà.
Est-ce qu'on a fait le tour ?
Ouais, on a fait le tour.
Bon, les amis, on est là tous les matins à 9h du mat sur Twitch. et puis aussi sur Twitter Spaces. Alors vous savez ce que vous pourriez vous faire, c'est vous rendre service en venant nous écouter chaque matin et en nous regardant en direct. Pourquoi ? Parce que c'est assez cool, non seulement on enregistre cet épisode et puis en plus de ça, on a un moment ensemble pour échanger, discuter entre gens qui faisons le social media. Donc on vous donne rendez-vous dès demain 9h du mat sur Twitch.
Ça marche et à très vite les amis.
Merci ciao. À vous tous, salut à tous, ciao, bye bye.